enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
1er épître de Paul à Timothée. Nous avons vu la première recommandation que Paul fait à Timothée, et cette recommandation, afin de... Quand Dieu fait des recommandations dans sa parole, c'est toujours pour une raison particulière. Et la raison de cette recommandation, c'est d'être protégé des fausses doctrines, protégé des discussions inutiles, de moins de leurs effets, des effets que ces choses peuvent avoir dans notre vie, et ce sont des effets dévastateurs quand on leur donne de la place. Et en fait, la recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. Et quand on parle de recommandation, on parle de choses qui nous concernent personnellement, qui nous appartiennent. Dieu est toujours prêt, Dieu est toujours capable, Dieu veut toujours bénir, agir et se manifester. Mais il y a aussi des choses que nous, personnellement, nous avons à faire, des choses qui sont du domaine de notre responsabilité. Et pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce que Dieu nous a créés libres, libres de choisir ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. Dès que le moment où Dieu a créé Adam, Dieu a créé Adam libre, et il a placé cette liberté de choix dans la vie d'Adam au travers de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu aurait pu ne jamais mettre cet arbre dans le jardin, sachant que cet arbre, eh bien, c'était peut-être une occasion de chute dans la vie d'Adam et qu'il allait y toucher. Mais Dieu ne voyait pas Adam comme un bébé. Vous savez, quand on a des enfants à la maison, des petits-enfants qui ont moins de 2 ans, moins de 3 ans, il y a des choses que on ne laisse pas à leur portée parce que c'est dangereux pour eux. On bouche, on cache toutes les prises de courant parce que les enfants ont toujours cette manie de vouloir mettre les doigts dans les prises. Les médicaments, on les enferme à clé ou on les met dans un endroit qui est inaccessible parce que les enfants ont toujours envie de manger des médicaments parce que ça ressemble à des bonbons. Et pourtant, ce ne sont pas des bonbons. Différents produits d'entretien, on les range dans des placards vraiment hauts parce que c'est dangereux. Il y a des enfants qui se sont tués, qui sont morts en buvant des détergents, de l'eau de Javel, des choses comme ça, et c'est vraiment dangereux. Quand on a un petit enfant, on s'arrange pour que les fenêtres soient fermées, surtout quand on habite dans des immeubles ou dans des maisons avec des étages, on doit fermer les fenêtres, ou en tout cas, si on les ouvre, on doit être vraiment prudent, parce que l'enfant peut sauter par la fenêtre sans savoir ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il est un enfant, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne le sait pas. Et quand Dieu a créé Adam, il ne l'a pas créé comme un enfant qui ne sait pas ce qu'il fait. Et c'est pour ça qu'il a placé devant lui un choix. Il n'a pas placé devant lui une occasion de chute. Non, 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 non. Il a placé devant lui un choix. Le choix d'obéir ou le choix de désobéir. Le choix de croire Dieu ou de ne pas le croire. Le choix de vouloir plaire à Dieu et de continuer à vivre cette merveilleuse relation qu'il connaissait puisqu'il l'expérimentait, ou le choix de vivre autre chose. Et vous savez comme moi que Adam a délibérément choisi de désobéir à Dieu avec toutes les conséquences que cela a impliquées. Et vous et moi, dans notre vie de tous les jours, nous avons un Dieu qui peut tout, qui veut tout, qui est capable de tout et qui est prêt à tout. Il est prêt à tout pour toi, personnellement, parce que tu es important à ses yeux, parce qu'il t'aime, parce que au travers de ce qu'il fait, il veut se révéler dans ta vie. Dieu se révèle dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dieu se révèle dans nos cœurs par la parole de Dieu. Et Dieu se révèle également dans nos vies au travers des choses qu'il fait. Parce qu'on pourrait dire, comme Job, qui pensait beaucoup de choses sur Dieu, et il se trompait dans beaucoup de domaines d'ailleurs, « Mon oreille avait entendu parler de toi. » Et c'est ce qui est une vérité dans la vie de beaucoup de chrétiens. « Mon oreille a entendu parler de toi. Je sais qui est Dieu parce que j'en ai entendu parler. » Mais est-ce que tu peux dire aujourd'hui, « Mais mon œil t'a vu. » Si tu peux dire, « Mon œil t'a vu il y a 5 ans, il y a 10 ans. » Bon, c'est bien. C'était bien pour l'époque d'il y a 5 ans ou d'il y a 10 ans. Mais peux-tu dire, « Mon œil t'a vu aujourd'hui, Seigneur. » Si vous voulez rester attaché à Dieu, si vous voulez rester motivé pour Dieu, avoir un feu dans vos vies, vous avez besoin de voir Dieu continuellement, chaque jour, dans les détails de votre vie. Le Seigneur qui vous parle, vous avez un conseil. Vous aviez une question par rapport à une décision à prendre, par rapport à une situation, et le Seigneur vous parle là même. Là même, peut-être quand tu es au volant de ta voiture, peut-être quand tu es sous la douche, peut-être quand tu es en train de marcher dans la rue, ou même en train de manger. Souvent Dieu nous parle quand on n'y pense pas, quand on est en train de faire des choses banales et ordinaires de notre vie de tous les jours. Est-ce que tu peux dire, Dieu, mon œil t'a vu aujourd'hui? Si tu ne peux pas le dire, déjà ta vie va commencer à faiblir un petit peu. Et si en fait tu peux dire, en fait Dieu, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas entendu, ça fait 6 mois. Là vraiment tu es en danger. Tu es en danger de te refroidir, en danger de te dessécher, en danger même de rétrograder. Pourquoi? On voit que les gens qui naissent de nouveau sont en feu pour Dieu. Parce qu'ils ont une fraîche expérience. Ils viennent de naître de nouveau, c'est extraordinaire, ça a révolutionné leur vie. Ils savent d'où ils ont été tirés, ils ont fait cette rencontre avec Jésus-Christ et il y a un feu dans leur vie. Mais malheureusement, on voit que après 6 mois, après 1 an, le feu commence à décliner. Et parfois on trouve des explications. Oui, c'était le feu du premier amour. Et maintenant, on rentre dans la routine. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Moi, c'est une chose que je n'accepte pas, que je ne veux pas et que je n'accepte pas ni dans ma vie, ni dans mon église. Parce que ce feu, il ne doit pas diminuer. Il doit grandir. Parce que jour après jour, tu dois découvrir qui est cette personne. La connaître, la comprendre, l'écouter et la voir agir. Et quand on vit dans cette relation avec Dieu, il n'y a pas le feu du premier amour qui s'éteint, mais il y a le feu du premier amour qui grandit. Et 5 ans, 10 ans après, ton amour pour le Seigneur, il est multiplié par rapport à ce que tu as vécu lors de ta nouvelle naissance. Ça, c'est la vie normale d'un chrétien né de nouveau. Mais si on veut conserver ce feu, si on veut voir Dieu agir, ça passe par une chose qui est élémentaire, l'obéissance. L'obéissance à sa parole, l'obéissance à ses recommandations. Parce que Dieu te considère comme libre, libre de l'écouter, libre de pas l'écouter, libre d'obéir, libre de ne pas obéir. Tu peux suivre les recommandations de sa parole ou tu peux ne pas les suivre. On a vu donc cette première recommandation pour que nous soyons préservés, que nous soyons gardés des choses vaines, des philosophies. Parce que les philosophies, ce ne sont pas seulement des pensées des hommes. Dans les philosophies, il y a des mauvais esprits. Il y a des esprits de mensonge, des esprits de séduction qui égarent l'humanité. On connaît un certain nombre de philosophies qui ont eu un poids, un impact dans notre temps, dans le temps passé, et on a vu les dégâts, les ravages que cela a fait. Si c'était seulement humain, ça n'aurait pas fait de tels dégâts et de tels ravages. Ça n'aurait pas emmené tellement de personnes en enfer. il faut comprendre une chose, c'est que derrière ces pensées qui sont soi-disant humaines, il y a le diable. Et le Seigneur veut que tu sois gardé, que tu sois protégé de tout ce qui vient du diable. Il y a des philosophies chrétiennes qui paraissent très bien. On peut même prendre un ou deux versets et les tordre un peu. Mais ça, c'est le diable qui fait ça. Et nous devons être personnellement au point, et ça c'est une autre idée par rapport à toutes ces choses, nous devons être au point où nous connaissons mieux la parole de Dieu que le diable. Parce que, ne vous y trompez pas, Satan connaît la parole. Quand on lit l'évangile de Luc, chapitre 4, et j'aimerais qu'on aille là ce matin, on continuera les autres recommandations de Paul à Timothée, parce que c'est vraiment important pour nos vies. Mais quand on lit l'évangile de Luc au chapitre 4, le diable, non seulement il connaît la parole de Dieu, mais en plus il connaît les lois spirituelles établies par Dieu qui régissent le monde, qui régissent l'univers, qui régissent la terre. On va les regarder deux choses seulement ce matin. On va lire ensemble verset 6, dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Le diable savait que l'autorité et la puissance de tous les royaumes de la terre lui ont été données par Adam lorsqu'il a désobéi à Dieu. Et ça, c'est vrai. C'est vrai. Vous savez, on doit être un peu plus intelligent et comprendre un peu mieux les choses en comprenant la façon dont le diable ment, dont le diable travaille. Le diable est menteur, mais il y a différentes façons de mentir. Tu peux mentir en disant que, par exemple, je peux dire... mentir en disant, vous voyez, ce micro est blanc. Et si je dis il est blanc, c'est un mensonge, parce que vous savez tous que ce micro est noir. Et ça, c'est un mensonge stupide, un mensonge que tout le monde peut prendre très facilement. Mais même si le diable n'est pas d'une intelligence extraordinaire, il est quand même un peu plus subtil que ça dans ses mensonges, parce qu'il arrive à tromper les hommes d'une manière ou d'une autre. Donc, on voit la chose suivante, c'est que le diable dit à Jésus, si toutes ces choses m'ont été données, et là, il dit la vérité, et par contre, quand il dit, si tu m'adores, je vais te le donner, c'est là que réside le mensonge. Est-ce que vous pensez un instant que si Jésus avait adoré Satan, Satan lui aurait donné l'autorité sur tous les royaumes de la terre ? Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'était un mensonge énorme. Et Jésus, au fond de lui, il savait, il comprenait que si il faisait cela, il se disqualifiait lui-même, Jésus, pour pouvoir racheter l'humanité. C'était fini. Jésus devenait un pécheur parce qu'il allait adorer le diable. Il en comprenait toutes les implications. Quand je vous dis que Satan connaît la parole de Dieu, un peu plus tard, il va tenter Jésus d'une autre manière et va lui dire au verset 9, la deuxième partie du verset 9, « Jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied heurte contre une pierre. » Qu'est-ce que Satan est en train de déclarer ? Qu'est-ce qu'il est en train de citer ? La parole de Dieu. Psaume 91, on va lire ensemble, mot pour mot, ce sont des paroles d'un psaume. Voyez, le diable connaît la parole de Dieu. Et j'espère pour toi que tu la connais mieux que lui. Psaume 91, verset 11, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Satan cite la parole de Dieu, mais il la cite d'une manière qui est inappropriée et qui est tordue. il y a une promesse de protection pour votre vie et pour ma vie, mais nous n'avons pas à tenter Dieu, à provoquer des situations. Si tu montes sur le toit du plus haut building de Bujumbura et que tu dis « je vais sauter parce que ces anges vont me garder de peur que mon pied ne heurte une pierre » et en plus de ça, ça va servir de témoignage à toute cette ville, tout le monde verra que Dieu existe et qu'il est capable de me protéger. Essaye seulement de faire ça. Je te promets que tu vas t'écraser en bas. Tu vas t'écraser en bas. La parole de Dieu est la parole de Dieu, mais elle doit être utilisée à bon escient. Si un jour tu es en danger et qu'une chose comme ça t'arrive, que ce n'est pas toi qui l'ai cherché ou provoqué, tu peux voir la main de Dieu, tu peux voir la protection surnaturelle de Dieu. Et en fait, Satan essaye de nous amener à tordre la parole, de nous amener dans des incompréhensions, mais il y a une façon de garder notre cœur, comme le dit Paul à Timothée, en donnant ses recommandations. Et ne pensez pas que ce sont des choses sans trop d'importance, que l'on peut, bon oui, bien sûr, on va étudier cela, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas étudié les épîtres de Paul, il faut quand même un sujet nouveau, quelque chose de nouveau à entendre, quelque chose de nouveau à enseigner. Ne prenez jamais les choses comme ça. Ne prenez jamais les choses comme ça. On n'a pas besoin d'une chose nouvelle à entendre. On a besoin d'entendre ce que Dieu veut nous dire pour que nos vies soient d'abord protégées, que nous vivions en sécurité et que nous puissions avancer et aller là où Dieu veut nous amener. Il veut nous amener dans un changement profond de vie. Amen. La deuxième recommandation que Paul fait à Timothée, et quand on parle de Paul qui fait des recommandations à Timothée, on peut dire c'est Dieu qui nous parle et qui nous montre notre part et notre responsabilité dans ce qui concerne notre vie spirituelle. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui se disent bon, j'appartiens à Jésus, c'est lui qui fait tout, et quand j'ai des problèmes, tout vient du diable. Il y a vraiment cette chose habituelle. Je parlais avec une de mes amies récemment qui s'était fait voler par quelqu'un chez elle des objets de valeur. Et bon, gloire à Dieu, elle a pu retrouver le type avant qu'il n'ait vendu ses objets. Elle a pu récupérer ce qui lui appartenait. Et de la bouche de ce garçon, comme de la bouche de toute personne qui est prise en faute, souvent, on entend les mêmes choses. C'est le diable qui m'a fait faire ça. Et en fait, c'est faux. C'est toi seul qui l'as fait. Le diable ne peut rien nous faire faire. Tout ce que nous faisons, c'est parce que nous décidons de le faire. Donc, le problème des hommes, c'est qu'ils refusent de prendre leurs responsabilités. Ils mettent tout sur Dieu. Tout ce qui doit arriver dans ma vie, c'est toi qui vas le faire. Et c'est faux. C'est faux. C'est vrai que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes certaines choses. Mais vous savez, je peux vous dire, regardez, là-bas, c'est la salle du trésor. Là-bas, dans cette pièce qui est juste là, il y a tout pour toi. Tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu veux. Et ça, c'est l'image de ce que Dieu fait, de ce que Dieu a fait. Il te dit, ici, il y a tout pour toi. Maintenant, ne dis pas « Oh, amène ces choses dans ma vie, Seigneur, je crois dans le nom de Jésus, amen. » Non, toi, lève-toi et vas-y, va chercher ce qui t'appartient. Crois Dieu sur sa parole, agis dessus et prends ce qui t'appartient. Donc, ce n'est pas la question de tout remettre sous la responsabilité de Dieu. Seigneur, si ça n'arrive pas, c'est parce que tu ne l'as pas voulu. Si ça n'arrive pas, c'est parce que tu ne l'as pas fait. Et puis bien souvent, ça va même plus loin. Tu m'as oublié et tu ne m'aimes pas. Et ça, ce sont des mensonges. Nous avons tous une part de responsabilité. Et pour ce qui concerne toutes les choses qui sont mauvaises et diaboliques, arrêtez de tout mettre sur le dos du diable. C'est vrai qu'il est méchant, c'est vrai qu'il est menteur, c'est vrai qu'il est voleur. Mais à chaque fois que tu fais une chose qui est mauvaise, c'est toi qui l'as fait. Et j'ai une nouvelle pour vous. Vous savez, quand Jésus va revenir durant le millénium pour régner pendant 1000 ans sur la terre, le diable et tous les démons seront liés. Il n'y en aura pas un seul sur cette terre pour influencer qui que ce soit. Et malgré tout, la parole de Dieu nous montre que Jésus va paître les hommes avec une verge de fer, c'est-à-dire par force. Et qu'il y a certains qui seront contre. Ils ne seront pas d'accord, mais ils seront obligés d'accepter le règne de Christ. Il y aura des hommes qui ne seront pas d'accord avec Dieu, qui ne voudront pas de Dieu. Et en fait, c'est même tellement facile à comprendre et à voir qu'au moment où le millénium va finir, Satan va être relâché et l'instant d'après, il y aura une multitude d'hommes qui vont être avec Satan pour encore combattre dans cette bataille d'Armageddon, la dernière bataille, la bataille finale. Ne pensez pas que le diable fait tout. Ce n'est pas vrai. Donc, pour en revenir à la recommandation de Paul à Timothée, du Seigneur à Timothée, du Seigneur, verset 18 de la première épître à Timothée, chapitre 1, « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi » et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la... De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Qui sont Hyménée et Alexandre ? C'étaient deux chrétiens de cette époque. Apparemment, des chrétiens connus. Certainement, des gens qui avaient une part quelconque dans le ministère. Quel était le problème? Pour Hyménée, on le voit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 17, où il est dit « Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philète, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. » Voyez, Hyménée, qui ne croyait pas dans la résurrection. Il était allé loin, il était tombé loin. Et ne pensez pas que ça n'arrive plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Les hommes sont toujours les hommes, ce sont les mêmes. Et le diable est toujours là également. Pour ce qui concerne Alexandre, on voit aussi dans la deuxième épître aux Timothée, au chapitre 4, verset 14, « Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. » Là, on voit que Paul, qu'il parle d'Hyménée ou qu'il parle d'Alexandre, il ne va pas dire « Et le Seigneur aura compassion d'eux, et le Seigneur les changera, et le Seigneur vraiment leur pardonnera. » Il ne dit pas ça. Il ne dit pas ça. Non pas parce qu'il est méchant, parce que Paul n'était pas méchant. Non pas parce que le Seigneur ne voulait pas les pardonner ni les changer. Mais le problème de ces deux personnes, et ce n'était pas d'ailleurs eux seulement, mais d'autres personnes, c'est qu'ils s'étaient tellement enfoncés dans la boue, dans les ordures. Ils avaient mangé de toutes ces saletés et s'est laissé tellement intoxiquer par ces choses qu'il n'y avait plus rien à faire pour eux. C'était devenu impossible. Le Seigneur dit dans sa recommandation, combat le bon combat. Combat le bon combat. Ça, c'est une chose qui vous appartient et qui m'appartient à chacun de nous personnellement pour notre vie. Je ne peux pas combattre le bon combat pour vous, pas plus que vous le pouvez pour moi. Qu'est-ce que c'est que le bon combat? C'est le bon combat de la foi. Qu'est-ce que c'est que le bon combat de la foi? Est-ce que ça veut dire qu'on doit combattre pour que les choses que Dieu nous a promises, les choses pour lesquelles nous prions, se réalisent et se manifestent? Non, ce n'est pas ça mon combat de la foi. Tu n'as pas à combattre quand tu pries pour une guérison. Tu n'as rien à combattre pour que cette guérison s'accomplisse. Jésus est le seul qui guérit. C'est lui qui a été meurtri à la croix et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. On n'a rien à combattre à ce niveau-là. Et c'est là que beaucoup de chrétiens se trompent et passent à côté parce qu'ils essayent, par leur combat, par leurs prières, par leurs efforts, d'amener à la réalité les choses que Dieu seul veut faire, peut faire et va faire. Tu ne peux rien amener pas en combattant. On n'a rien à combattre. Et c'est pour ça que souvent, tu pries, tu ne vois rien. Parce que tu combats. Parce que tu essayes. Comme si c'est toi qui devais faire ces choses. Ou tu essayes d'aider Dieu. Et ça, ça n'a rien à voir avec la foi. La foi, c'est une ferme assurance. C'est une pleine confiance. Des choses qu'on ne voit pas, on les voit dans notre cœur comme si elles étaient déjà là. Et on sait que ce n'est même pas nous qui pouvons le faire, c'est Dieu qui le fait. Parce qu'il veille sur sa parole afin de l'exécuter. Mais chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, nous avons un combat à mener. Un combat à mener au niveau de nos pensées, au niveau de nos émotions, au niveau du fait de choisir jour après jour de rester dans la parole sans jamais en dévier. Et c'est à ce niveau-là que nous devons combattre. Quand des circonstances adverses viennent contre nous, où es-tu? Si un malheur arrive dans ta vie, si un de tes enfants meurt, que vas-tu faire? Oh Seigneur, je ne t'aime plus. Tu as tué mon enfant. Là aussi, dans ces choses-là, nous avons toujours un combat à mener et de dire, je ne comprends pas ce qui se passe, mais Seigneur, un jour je saurai, j'ai choisi de marcher avec toi quoi qu'il arrive. Tu dois combattre à ce niveau-là, tu dois prendre une décision, faire un choix, et ce n'est pas facile parce que le diable viendra toujours pour essayer de t'influencer, te dire, regarde ce que Dieu t'a fait, regarde, Dieu ne t'aime pas. Alors que Dieu n'était même pas dans ces choses au départ. Dieu est l'auteur de la bénédiction, non pas de la malédiction. Donc, face aux circonstances adverses qui arrivent, que parfois nous n'arrivons pas à surmonter, il y a des choses mauvaises qui arrivent dans la vie de tout le monde. Ça arrive de temps en temps. C'est vrai que nous avons des promesses dans la parole de Dieu et qu'un bon nombre nous sont évitées. Mais il arrive néanmoins que parfois, il y a des choses incompréhensibles qui arrivent. Et là, tu dois combattre pour rester dans la foi. Tu dois prendre une décision, choisir avec qui, de quel côté tu te mets, avec qui tu marches et qui tu choisis de servir. Et un jour ou l'autre, tu comprendras pourquoi tu as vécu cela. Je me rappelle quand nous étions à l'école biblique, il y avait une femme, il y avait du moins un des enseignants qui nous racontait la chose suivante. Il y avait une femme, et ça se passait en Amérique du Sud, il y avait une femme qui était enceinte et qui était sur le point d'accoucher quelques jours, quelques semaines plus tard. Et elle était chez elle, et il y a sa mère qui vient pour lui rendre visite. Au moment où la mère rentre dans la pièce où se trouve sa fille enceinte, elle commence à sentir un essoufflement. Elle commence à sentir que ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Et au moment où elle sort de la pièce, elle ne sent plus rien. Fatiguée, je ne sais pas exactement ce qui se passe, etc., etc. Et puis finalement, après avoir rendu visite à sa fille, elle est rentrée chez elle. Et très peu de temps après, peut-être quelques jours après, vraiment peu de temps après, le bébé qui était dans le ventre de sa fille est mort. Et sa fille a accouché donc d'un enfant mort. Et en fait, quand cet enfant est né, bon, il est mort, il est né quand même, il était mort, on s'est rendu compte qu'il avait le cordon ombilical autour du cou. Et en fait, ce que la mère ressentait, c'était la détresse de l'enfant qui était dans le ventre de sa fille. Alors, elle a compris seulement plus tard. Elle ne l'a pas compris sur le moment. Mais elle a eu une réponse. Parce qu'on aurait pu se dire, nous sommes de bons chrétiens. Ma fille est une bonne chrétienne. Pourquoi est-ce que l'enfant qu'elle attendait est mort comme ça d'une manière si dramatique? Il y avait une explication. Simplement, elle n'a pas compris. Elle a manqué ce que Dieu voulait lui dire. Et ce n'est pas parce que Dieu n'a pas parlé clairement. C'est simplement parce qu'elle n'a pas été vraiment attentive. Elle n'a pas su comprendre, interpréter ce que Dieu était en train de lui dire. Et en fait, par rapport à toute circonstance, il y a une interprétation. Il y a quelque chose. Dieu voulait sûrement te prévenir, t'avertir. Il l'a sûrement fait, seulement tu ne l'as pas vu et tu ne l'as pas compris. Ne pensez pas que Dieu est négligent, que s'il arrive quelque chose dans votre vie, il n'a pas essayé de vous prévenir, c'est vous qui n'avez pas écouté. Ou c'est vous qui avez fait de mauvais choix. Je décide de prendre cette direction pour ma vie, de marcher sur ce chemin. Il y a une pancarte au bout. Il s'est écrit « Attention, danger, il y a un précipice, n'allez pas plus loin. » Et toi, tu continues en disant « Mais non, il n'y a pas autre précipice, d'ailleurs tout le monde passe par là. » Et boum, tu tombes. On doit mener le bon combat de la foi par rapport à notre vie, par rapport à nous-mêmes, pour rester dans le Seigneur quoi qu'il puisse arriver. Mais quoi qu'il arrive, ne pensez jamais que c'est Dieu qui est l'auteur des mauvaises choses. Il est l'auteur que des bonnes choses. Par rapport à la crainte, vous savez, il y a des moments, la tempête hurle dans notre vie. La tempête hurle. Parfois, c'est des tempêtes financières. Parfois, c'est des attaques ou des symptômes dans notre corps. Parfois, c'est d'autres choses. Et quand la tempête hurle, il y a une crainte qui se lève en nous. Et là aussi, on doit mener un combat et un bon combat de la foi par rapport à notre crainte. Lisez 2 Chroniques 20. Vous allez voir le roi Josaphat qui était terrorisé parce que les ennemis approchaient et venaient pour l'attaquer. Mais lui, il a préféré chercher Dieu. Il a réussi à vaincre sa crainte. Il a mené le bon combat de la foi. Ensuite, il a entendu la voix de Dieu et ensuite, il a vu la délivrance que Dieu voulait amener dans sa vie. Et mener le bon combat de la foi, c'est quelque chose de quotidien. Quotidiennement, jour après jour, on doit combattre le bon combat, garder son cœur bien positionné par rapport à Dieu, par rapport à la parole de Dieu. On doit prendre une décision. Je garde la foi et je garde aussi une bonne conscience. Que le Seigneur vous bénisse.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.